Fédor Dostoïevski, Les possédés. Quand vous me tueriez, je ne vois nulle trace. Nous nous sommes égarés, qu'allons-nous faire? Le démon nous pousse sans doute à travers les champs et nous fait tourner en divers sens. Combien sont-ils? Où les chasse-t-on? Pourquoi chante-t-il si lugubrement? Enterre-t-il un farfadé ou marie-t-il une sorcière? Ah, Pushkin. Or, il y avait là un grand troupeau de pourceaux qui paissaient sur la montagne, et les démons le priait qu'il leur permît d'entrer dans ses pourceaux, et il le leur permit. Les démons, étant donc sortis de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita de ce lieu escarpé dans le lac, et fut noyé. Et ceux qui les paissaient, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et le racontèrent dans la ville et à la campagne. Alors les gens sortirent pour voir ce qui s'était passé. Et étant venus vers Jésus, ils trouvèrent l'homme duquel les démons étaient sortis, assis aux pieds de Jésus, habillé et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Et ceux qui avaient vu ces choses leur racontèrent comment le démoniaque avait été délivré. Évangile selon saint Luc, chapitre 8, 32-27. Première partie, chapitre 1er, en guise d'introduction, quelques détails biographiques concernant le très honorable Stefan Trofimovitch Verkhovansky. 1. Pour raconter les événements si étranges survenus dernièrement dans notre ville, je suis obligé de remonter un peu plus haut et de donner au préalable quelques renseignements biographiques sur une personnalité distinguée, le très honorable Stepan Trofimovitch Verkhovansky. Ces détails serviront d'introduction à la chronique que je me propose d'écrire. Je le dirai franchement, Stepan Trofimovitch a toujours tenu parmi nous, si l'on peut ainsi parler, l'emploi de citoyen. Il aimait ce rôle à la passion. Je crois même qu'il serait mort plutôt que d'y renoncer. Ce n'est pas que je l'assimile à un comédien de profession. Dieu m'en préserve. D'autant plus que, personnellement, je l'estime. Tout, dans son cas, pouvait être l'effet de l'habitude, ou mieux, d'une noble tendance, qui, dès ses premières années, avait constamment poussé à rêver une belle situation civique. Par exemple, sa position de persécuté et d'exilé lui plaisait au plus haut point. Le prestige classique de ces deux petits mots l'avait séduit une fois pour toutes. En se les appliquant, il se grandissait à ses propres yeux, si bien qu'il finit à la longue par se hisser sur une sorte de piédestal fort agréable à la vanité. Je crois bien que, vers la fin, tout le monde l'avait oublié, mais il y aurait injustice à dire qu'il fut toujours inconnu. Les hommes de la dernière génération entendirent parler de lui comme d'un des coryphées du libéralisme. Durant un moment, une toute petite minute, son nom eut, dans certains milieux, à peu près le même retentissement que ceux de Tchadaïev, de Bielinski, de Granovski et de Herzen, qui débutaient alors à l'étranger. Malheureusement, à peine commencée, la carrière active de Stepan Trofimovitch s'interrompit, brisée qu'elle fût, disait-il, par le tourbillon des circonstances. À cet égard, il se trompait. Ces jours-ci seulement, j'ai appris, avec une extrême surprise, mais force m'a été de me rendre à l'évidence, que, loin d'être en exil dans notre province, comme chacun le pensait chez nous, Stepan Trofimovitch n'avait même jamais été sous la surveillance de la police. Ce que c'est pourtant que la puissance de l'imagination. Lui-même crut toute sa vie qu'on avait peur de lui en haut lieu, que tous ses pas étaient comptés, toutes ses démarches épiées, et que tout nouveau gouverneur envoyé dans notre province arrivait de Pétersbourg avec des instructions précises concernant sa personne. Si l'on avait démontré clair comme le jour au très honorable Stepan Trofimovitch qu'il n'avait absolument rien à craindre, il en aurait été blessé à coup sûr. Et cependant, c'était un homme fort intelligent. Revenu de l'étranger, il occupa brillamment, vers 1850, une chaire de l'enseignement supérieur, mais il ne fit que quelques leçons, sur les Arabes, si je ne me trompe. De plus, il soutint avec éclat une thèse sur l'importance civique et hanséatique qu'aurait pu avoir la petite ville allemande de Hanau dans la période comprise entre les années 1413 et 1428, et sur les causes obscures qui l'avaient empêché d'acquérir ladite importance. Cette dissertation était remplie de traits piquants à l'adresse des slavophiles d'alors. Aussi devint-il du coup leur bête noire. Plus tard, ce fut du reste après sa destitution et pour montrer quel homme l'université avait perdu en lui, il fit paraître, dans une revue mensuelle et progressiste, le commencement d'une étude très savante sur les causes de l'extraordinaire noblesse morale de certains chevaliers à certaines époques. On a dit, depuis, que la suite de cette publication avait été interdite par la censure. C'est bien possible, vu l'arbitraire effréné qui régnait en ce temps-là. Mais, dans l'espèce, le plus probable est que seule la paresse de l'auteur l'empêcha de finir son travail. Quant à ses leçons sur les Arabes, voici l'incident qui y mit un terme. Une lettre compromettante, écrite par Stepan Trofimovitch à un de ses amis, tomba entre les mains d'un tiers, un rétrograde sans doute. Celui-ci s'empressa de la communiquer à l'autorité, et l'imprudent professeur fut invité à fournir des explications. Sur ces entrefaites, justement, on saisit à Moscou, chez deux ou trois étudiants, quelques copies d'un poème que Stepan Trofimovitch avait écrit à Berlin 6 ans auparavant, c'est-à-dire au temps de sa première jeunesse. En ce moment même, j'ai sur ma table l'œuvre en question. Pas plus tard que l'an dernier, Stepan Trofimovitch m'en a donné un exemplaire autographe, orné d'une dédicace et magnifiquement relié en maroquin rouge. Ce poème n'est pas dépourvu de mérite littéraire, mais il me serait difficile d'en raconter le sujet, attendu que je n'y comprends rien. C'est une allégorie dont la forme lyrico-dramatique rappelle la seconde partie de Faust. L'an passé, je proposais à Stepan Trofimovitch de publier cette production de sa jeunesse, en lui faisant observer qu'elle avait perdu tout caractère dangereux. Il refusa avec un mécontentement visible. L'idée que son poème était complètement inoffensif lui avait déplu, et c'est même à cela que j'attribue la froideur qu'il me témoigna pendant 2 mois. Eh bien, cet ouvrage qu'il n'avait pas voulu me laisser publier ici, on l'inséra peu après dans un recueil révolutionnaire édité à l'étranger, et naturellement sans en demander la permission à l'auteur. Cette nouvelle inquiéta d'abord Stepan Trofimovitch. Il courut chez le gouverneur et écrivit à Pétersbourg une très noble lettre justificative qu'il me lut 2 fois, mais qu'il n'envoya point, faute de savoir à qui l'adresser. Bref, durant tout un mois, il fut en proie à une vive agitation. J'ai néanmoins la conviction que, dans l'intime de son être, il était profondément flatté. Il avait réussi à se procurer un exemplaire du recueil, et ce volume ne le quittait pas, du moins la nuit. Pendant le jour, Stepan Trofimovitch le cachait sous un matelas, et il défendait même à sa servante de refaire son lit. Quoiqu'il s'attendît d'instant en instant à voir arriver un télégramme, l'amour-propre satisfait perçait dans toute sa manière d'être. Aucun télégramme ne vint. Alors il se réconcilia avec moi, ce qui atteste l'extraordinaire bonté de son cœur, doux et sans rancune. II. Je ne nie absolument pas son martyr. Seulement, je suis convaincu aujourd'hui qu'il aurait pu, en donnant les explications nécessaires, continuer tout à son aise ses leçons sur les Arabes. Mais l'ambition de jouer un rôle le tenta, et il mit un empressement particulier à se persuader une fois pour toutes que sa carrière était désormais brisée par le tourbillon des circonstances. Au fond, la vraie raison pour laquelle il abandonna l'enseignement public fut une proposition que lui fit à deux reprises et en termes fort délicats Barbara Petrovna, femme du lieutenant-général Stavrogin. Cette dame, puissamment riche, pria Stepan Trofimovitch de vouloir bien diriger, en qualité de haut pédagogue et d'ami, le développement intellectuel de son fils unique. Inutile de dire qu'à cette place étaient attachés de brillants honoraires. Quand il reçut pour la première fois ses ouvertures, Stepan Trofimovitch était encore à Berlin et venait justement de perdre sa première femme. Celle-ci était une demoiselle de notre province, jolie mais fort légère, qu'il avait épousée avec l'irréflexion de la jeunesse. L'insuffisance de ressources pour subvenir aux besoins du ménage et d'autres causes d'une nature plus intime rendirent cette union très malheureuse. Les deux conjoints se séparèrent et, 3 ans après, Madame Verkovansky mourut à Paris, laissant à son époux un fils de 5 ans. Fruit d'un premier amour joyeux et sans nuages encore, comme s'exprimait un jour devant moi Stepan Trofimovitch. On se hâta d'expédier le baby en Russie, où il fut élevé par des tantes dans un coin perdu du pays. Cette fois, Verkovansky déclina les offres de Barbara Petrovna, et, moins d'un an après avoir enterré sa première femme, il épousa en seconde noce une taciturne allemande de Berlin. D'ailleurs, un autre motif encore le décida à refuser l'emploi de précepteur. La renommée d'un professeur très célèbre, alors, l'empêchait de dormir, et il aspirait à entrer au plus tôt en possession d'une chaire, d'où il put, lui aussi, prendre son vol vers la gloire. Et voilà que maintenant ses ailes étaient coupées. À ce déboire s'ajouta la mort prématurée de sa seconde femme. Il n'avait plus alors aucune raison pour se dérober aux instances de Barbara Petrovna, d'autant plus que cette dame lui portait des sentiments vraiment affectueux. Disons-le franchement, Barbara Petrovna lui ouvrait les bras. Il s'y précipita. Qu'on n'aille point toutefois donner à mes paroles un sens bien éloigné de ma pensée. Pendant les 20 ans que dura la liaison de ces deux êtres si remarquables, ils ne furent unis que par le lien le plus fin et le plus délicat. D'autres considérations encore agirent sur l'esprit de Stepan Trofimovitch pour lui faire accepter la place de précepteur. D'abord, le très petit bien laissé par sa première femme était situé tout à côté du superbe domaine de Skvoreshniki que les Stavrogin possédaient aux environs de notre ville. Et puis, dans le silence du cabinet, n'ayant pas à compter avec les 1000 assujettissements de l'existence universitaire, il pourrait toujours se consacrer à la science, enrichir de profondes recherches la littérature nationale. Et s'il ne réalisa pas cette partie de son programme, par contre, il put, pendant tout le reste de sa vie, être, selon l'expression du poète, le reproche incarné. Cette attitude, Stepan Trofimovitch la conservait même au club, en s'asseyant devant une table de jeu. Il était à peindre alors. Toute sa personne semblait dire « Eh bien, oui, je joue aux cartes. À qui la faute? Qui est-ce qui m'a réduit à cela? Qui est-ce qui a brisé ma carrière? Allons, périsse la Russie !» Et noblement, il coupait avec du cœur. La vérité, c'est qu'il adorait le tapis vert. Dans les derniers temps surtout, cette passion lui attira fréquemment des scènes désagréables avec Barbara Petrovna, d'autant plus qu'il perdait toujours. Du reste, j'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Je remarquerai seulement ici que Stepan Trofimovitch avait de la conscience, du moins quelquefois. Aussi était-il souvent triste. 3 ou 4 fois par an, il prenait des accès de chagrin civique, c'est-à-dire tout bonnement d'hypocondrie. Cependant, nous usions entre nous de la première dénomination, qui plaisait davantage à la générale Stavrogine. Plus tard, outre cela, il s'adonna aussi au champagne. Toutefois, Barbara Petrovna sut toujours le préserver des inclinations vers tout penchant trivial. Assurément, il avait besoin d'une tutelle, car il était parfois très étrange. Au milieu de la plus noble tristesse, il se mettait tout à coup à rire de la façon la plus vulgaire. À de certains moments, il s'exprimait sur son propre compte en termes humoristiques, ce qui contrariait vivement Barbara Petrovna, femme imbue des traditions classiques et constamment guidée dans son mécénatisme par des vues d'ordre supérieur. Cette grande dame eut durant 20 ans une influence capitale sur son pauvre ami. Il faudrait parler un peu d'elle. C'est ce que je vais faire. Il y a des amitiés bizarres. Deux amis voudraient presque s'entre-dévorer, et ils passent toute leur vie ainsi sans pouvoir se séparer l'un de l'autre. Bien plus, celui des deux qui romprait la chaîne en deviendrait malade tout le premier, et peut-être en mourrait. Plus d'une fois, et souvent à la suite d'un entretien intime avec Barbara Petrovna, Stepan Trofimovitch, bondissant de dessus son divan, se mit à frapper le mur à coups de poing. Je n'exagère rien. Un jour même, dans un de ses transports furieux, il déplâtra la muraille. On me demandera peut-être comment un semblable détail est parvenu à ma connaissance. Je pourrais répondre que la chose s'est passée sous mes yeux. Je pourrais dire que nombre de fois, Stepan Trofimovitch a sangloté sur mon épaule, tandis qu'avec de vives couleurs, il me peignait tous les dessous de son existence. Mais voici ce qui arrivait d'ordinaire après ses sanglots. Le lendemain, il se fût volontiers crucifié de ses propres mains pour expier son ingratitude. Il se hâtait de me faire appeler ou accourait lui-même chez moi, à seule fin de m'apprendre que Barbara Petrovna était un ange d'honneur et de délicatesse, et lui tout opposé. Non content de verser ses confidences dans mon sein, il en faisait part à l'intéressée elle-même, et ce dans des épîtres fort éloquentes signées de son nom en toutes lettres. « Pas plus tard qu'hier, confessait-il, j'ai raconté à un étranger que vous me gardiez par vanité, que vous étiez jalouse de mon savoir et de mes talents, que vous me haïssiez, mais que vous n'osiez manifester ouvertement cette haine de peur d'être quittée par moi, ce qui nuirait à votre réputation littéraire. En conséquence, je me méprise, et j'ai résolu de me donner la mort. J'attends de vous un dernier mot qui décidera de tout. » Etc., etc. On peut se figurer, d'après cela, où en arrivait parfois dans ses accès de nervosisme ce quinquagénaire d'une innocence enfantine. Je lus moi-même un jour une de ses lettres. Il l'avait écrite à la suite d'une querelle fort vive, quoique née d'une cause futile. Je fus épouvanté, et je le conjurai de ne pas envoyer ce pli. « Il le faut. C'est plus honnête. C'est un devoir. Je mourrai si je ne lui avoue pas tout. Tout !» répondit-il avec exaltation, et il resta sourd à toutes mes instances. La différence entre Barbara Petrovna et lui, c'est que la générale n'aurait jamais envoyé une pareille lettre. Il est vrai que Stepan Trofimovitch aimait passionnément à noircir du papier. Alors qu'elle et lui habitaient la même maison, il lui écrivait jusqu'à 2 fois par jour dans ses crises nerveuses. Je sais de bonne source qu'elle lisait toutes ses lettres avec la plus grande attention, même quand elle en recevait 2 en 24 heures. Ensuite, elle les serrait dans une cassette spéciale. De plus, elle en prenait note dans sa mémoire. Puis, après avoir laissé son ami sans réponse pendant tout un jour, lorsque Barbara Petrovna le revoyait, elle lui montrait le visage le plus tranquille, comme s'il ne s'était rien passé de particulier entre eux. Peu à peu, elle le dressa si bien que lui-même n'osait plus parler de l'incident de la veille. Il se bornait à la regarder furtivement dans les yeux. Mais elle n'oubliait rien, tandis que Stepan Trofimovitch, rassuré par le calme de la générale, oubliait parfois trop vite. Souvent, le même jour, s'il arrivait des amis et qu'on but du champagne, il riait, folâtrait comme un écolier. Quel regard venimeux elle dardait probablement sur lui dans ces moments-là, et il ne s'en apercevait pas. Au bout de 8 jours, d'un mois, de 6 mois, elle lui rappelait à brûle-pourpoint telle expression de telle lettre, puis la lettre tout entière, avec toutes les circonstances. Aussitôt, il rougissait de honte, et son trouble se traduisait ordinairement par une légère attaque de colérine. En effet, Barbara Petrovna se prenait très souvent à le haïr. Mais, chose qu'il ne remarqua jamais, elle avait fini par le regarder comme son enfant, sa création, on pourrait même dire son acquisition. Il était devenu la chair de sa chair, et si elle le gardait, l'entretenait, ce n'était pas seulement parce qu'elle était jalouse de ses talents. Oh, combien devait la blesser de telles suppositions! Un amour intense se mêlait en elle à la haine, à la jalousie et au mépris qu'elle éprouvait sans cesse à l'égard de Stepan Trofimovitch. Pendant 22 ans, elle l'entoura de soins, veilla sur lui avec la sollicitude la plus infatigable. Dès que se trouvait en jeu la réputation littéraire, scientifique ou civique de son ami, Barbara Petrovna perdait le sommeil. Elle l'avait inventé, et elle croyait elle-même la première à son invention. Il était pour elle quelque chose comme un rêve. Mais, en revanche, elle exigeait beaucoup de lui. Parfois même, elle le traitait en esclave. Elle était rancunière à un degré incroyable. Au mois de mai 1855, on apprit à Skovoreshniki le décès du lieutenant-général Stavrogin. Sans doute Barbara Petrovna ne pouvait pas regretter beaucoup le défunt, car depuis 4 ans, les deux époux vivaient séparés l'un de l'autre pour cause d'incompatibilité d'humeur, et la femme servait une pension au mari. En dehors de son traitement, le lieutenant-général ne possédait que 150 âmes. Toute la fortune, y compris le domaine de Skvoreshniki, appartenait à Barbara Petrovna, fille unique d'un riche fermier des Boissons. Néanmoins, elle reçut une forte secousse de cet événement imprévu et se retira tout à fait du monde. Naturellement, Stepan Trofimovitch fut en permanence auprès d'elle. Le printemps déployait toutes ses magnificences. Les putiers fleuris remplissaient l'air de leurs parfums. Les dernières heures du jour prêtaient à la nature un charme particulièrement poétique. Chaque soir, les deux amis se retrouvaient au jardin. Et, jusqu'à la tombée de la nuit, assis sous une charmille, ils se confiaient leurs sentiments et leurs idées. Sous l'impression du changement intervenu dans sa destinée, Barbara Petrovna parlait plus que de coutume. Son cœur semblait chercher celui de son ami. Ainsi se passèrent plusieurs soirées. Une supposition étrange se présenta tout à coup à l'esprit de Stepan Trofimovitch. Cette veuve inconsolable n'a-t-elle pas des vues sur moi? N'attend-elle pas de moi une demande en mariage à l'expiration de son œil? Pensée cynique, mais plus on est cultivé, plus on est enclin aux pensées de ce genre, par cela seul que le développement de l'intelligence permet d'embrasser une plus grande variété de points de vue. En examinant cette conjecture, il la trouva assez vraisemblable et devint songeur. Certes, la fortune est immense, mais... Le fait est que Barbara Petrovna n'avait rien d'une beauté. C'était une femme grande, jaune, osseuse, dont le visage démesurément allongé offrait quelque analogie avec une tête de cheval. Stepan Trofimovitch hésitait de plus en plus et souffrait cruellement de ne pouvoir prendre un parti. Deux fois même, son irrésolution lui arracha les larmes. Il pleurait assez facilement. Le soir, sous la charmille, son visage exprimait, comme malgré lui, un mélange de tristesse, de moquerie, de fatuité et d'arrogance. Ces jeux de physionomie sont indépendants de la volonté, et ils se remarquent d'autant mieux que l'homme est plus noble. Dieu sait ce qu'il en était au fond, mais il est probable que Stepan Trofimovitch se faisait quelque illusion sur la nature du sentiment né dans l'âme de Barbara Petrovna. Elle n'aurait pas échangé son nom de Stavrogin contre celui de Verkhovensky, quelque glorieux que fût ce dernier. Peut-être n'était-ce de sa part qu'un amusement féminin. Peut-être obéissait-elle tout bonnement à ce besoin de flirter, si naturel aux dames dans certains cas. Il est à supposer que la veuve ne tarda pas à lire dans le cœur de son ami. Elle ne manquait pas de pénétration, et il était quelquefois fort ingénu. Quoi qu'il en soit, les soirées se passaient comme de coutume, les causeries étaient toujours aussi poétiques et aussi intéressantes. Un jour, à l'approche de la nuit, après un entretien plein d'animation et de charme, la générale et le précepteur, échangeant une chaleureuse poignée de main, se séparèrent à l'entrée du pavillon où logeait Stepan Trofimovitch. Chaque été, il transportait ses pénates dans ce petit bâtiment qui faisait presque partie du jardin. Rentré chez lui, il se mit à la fenêtre pour fumer un cigare. Mais à peine s'était-il approché de la croisée qu'un léger bruit le fit soudain tressaillir. Il retourna la tête et aperçut devant lui Barbara Petrovna. Il n'y avait pas 5 minutes qu'il s'était quitté. Le visage jaune de la générale avait pris une teinte bleuâtre. Un frémissement presque imperceptible agitait ses lèvres serrées. Pendant 10 secondes, elle garda le silence, fixant sur Stepan Trofimovitch un regard d'une dureté implacable. Puis de sa bouche sortirent ces quelques mots, murmurés rapidement. « Jamais je ne vous pardonnerai cela !» 10 ans plus tard, quand il me raconta cette histoire à voix basse, et après avoir d'abord fermé les portes, il me dit qu'il était resté pétrifié de stupeur. Il avait tellement perdu l'usage de ses sens qu'il ne vit ni n'entendit Barbara Petrovna quitter la chambre. Comme jamais dans la suite, elle ne fit la moindre allusion à cet incident, il fut toujours porté à croire qu'il avait été le jouet d'une hallucination due à un état morbide. Supposition d'autant plus admissible que cette nuit même, il tomba malade et fut souffrant pendant 15 jours, ce qui mit fort à propos un terme aux entrevues dans le jardin. 5. Le costume que Stepan Trofimovitch porta toute sa vie était une invention de Barbara Petrovna. Cette tenue élégante et caractéristique mérite d'être mentionnée. Redingote noire à longs pans, boutonnée presque jusqu'en haut. Chapeau mou à large bord, en été c'était un chapeau de paille. Cravate de batiste blanche à grands nœuds et à bout flottant. Canne à pomme d'argent. Stepan Trofimovitch se rasait la barbe et les moustaches. Il laissait tomber sur ses épaules ses cheveux châtains qui ne commencèrent à blanchir un peu que dans les derniers temps. Jeune, il était, dit-on, extrêmement beau. Dans sa vieillesse, il avait encore, à mon avis, un air assez imposant avec sa haute taille, sa maigreur et sa chevelure mérovingienne. À la vérité, un homme de 53 ans ne peut pas s'appeler un vieillard. Mais, par une sorte de coquetterie civique, loin de chercher à se rajeunir, il aurait plus volontiers posé pour le patriarche. Dans les premières années, ou pour mieux dire, durant la première moitié de son existence chez Barbara Petrovna, Stepan Trofimovitch pensait toujours à composer un ouvrage. Plus tard, nous l'entendîmes souvent répéter « Mon travail est prêt, mes matériaux sont réunis et je ne fais rien. Je ne puis me mettre à l'œuvre. » En prononçant ces mots, il inclinait douloureusement sa tête sur sa poitrine. Un tel aveu de son impuissance devait ajouter encore à notre respect pour ce martyr chez qui la persécution avait tout tué. Vers 1860, Barbara Petrovna, voulant produire son ami sur un théâtre digne de lui, l'emmena à Pétersbourg. Elle-même, d'ailleurs, désirait se rappeler à l'attention du grand monde où elle avait vécu autrefois. Ils passèrent un hiver presque entier dans la capitale, mais sans atteindre aucun des résultats espérés. Les anciennes connaissances avec qui Barbara Petrovna essaya de renouer des relations accueillirent très froidement ces avances, ou même ne les accueillirent pas du tout. De dépit, la générale se jeta dans les idées nouvelles. Elle songea à fonder une revue et donna des soirées auxquelles elle invita les gens de lettres. En même temps, elle organisa des séances littéraires destinées à mettre en évidence le talent de Stepan Trofimovitch. Mais, hélas, le libéral de 1840 n'était plus dans le mouvement. En vain, pour complaire à la jeune génération, reconnut-il que la religion était un mal et l'idée de patrie une absurdité ridicule. Ces concessions ne le préservèrent pas d'un fiasco lamentable. Le malheureux conférencier, ayant eu l'audace de déclarer qu'il préférait de beaucoup Pouchkine à une paire de bottes, il n'en fallut pas plus pour déchaîner contre lui une véritable tempête de sifflets et de clameurs injurieuses. Bref, on le conspua comme le plus vil des rétrogrades. Sa douleur fut telle en se voyant traité de la sorte qu'il fondit en larmes avant même d'être descendu de l'estrade. Décidément, il n'y avait rien à faire à Pétersbourg. La générale et son ami revinrent à Skorechniki. VI. Peu après, Barbara Petrovna envoya Stepan Trofimovitch se reposer à l'étranger. Il partit avec joie. « Là, je vais ressusciter !» s'écriait-il. « Là, je me reprendrai enfin à la science !» Mais dès ses premières lettres, reparut la note désolée. « Mon cœur est brisé !» écrivait-il à Barbara Petrovna. « Je ne puis rien oublier !» Ici, à Berlin, tout me rappelle mon passé, mes premières ivresses et mes premiers tourments. Où est-elle? Où sont-elles maintenant toutes deux? Qu'êtes-vous devenue, ange dont je ne fus jamais digne? Où est mon fils bien-aimé? Enfin, moi-même, où suis-je? Que suis-je devenue, moi, jadis fort comme l'acier, inébranlable comme un roc? pour qu'un Andreïev puisse briser mon existence en deux ? Etc., etc. Depuis la naissance de son fils bien-aimé, Stepan Trofimovitch ne l'avait vu qu'une seule fois. C'était pendant son dernier séjour à Pétersbourg, où l'enfant, devenu un jeune homme, se préparait à entrer à l'université. Pierre Stepanovitch, comme je l'ai dit, avait été élevé chez ses tantes, dans le gouvernement de O, à 700 verstes de Skovorechniki. Barbara Petrovna faisait les frais de son entretien. Quant à Andreïev, c'était un marchand de notre ville. Il devait encore 400 roubles à Stepan Trofimovitch, qui lui avait vendu le droit de faire des coupes de bois dans son bien sur une étendue de quelques dessiatines. Quoique Barbara Petrovna n'eût pas plaint les subsides à son ami en l'envoyant à Berlin, celui-ci comptait bien toucher ses 400 roubles avant son départ. Il en avait sans doute besoin pour quelques dépenses secrètes, et peu s'en fallut qu'il ne pleurât lorsque Andreïev le pria d'attendre un mois. D'ailleurs, le marchand était parfaitement fondé à demander un répit, car, sur le désir de Stepan Trofimovitch, qui n'osait avouer certains découverts à la générale, il avait fait le premier versement 6 mois avant l'échéance obligatoire. Dans la seconde lettre reçue de Berlin, le thème s'était modifié. « Je travaille 12 heures par jour. »« S'il travaillait seulement 11 heures, » grommela en lisant ces mots Barbara Petrovna. « Je fouille les bibliothèques, je compulse, je prends des notes, je fais des courses, je suis allé voir des professeurs, j'ai renouvelé connaissance avec l'excellente famille d'Undasov, que Nadejda Nikolaïevna est charmante encore à présent. Elle vous salue. Son jeune mari et ses 3 neveux sont à Berlin. Je passe les soirées avec la jeunesse, nous causons jusqu'au lever du jour. Ce sont presque des soirées athéniennes, mais seulement au point de vue de la délicatesse et de l'élégance. Tout y est noble. On fait de la musique, on rêve la rénovation de l'humanité, on s'entretient de la beauté éternelle, etc., etc. Ce ne sont que des contes à dormir debout, décida Barbara Petrovna en serrant cette lettre dans sa cassette. Si les soirées athéniennes se prolongent jusqu'au lever du jour, il ne donne pas 12 heures au travail. Était-il ivre quand il a écrit cela? Et cette Dundasov, comment ose-t-elle m'envoyer des saluts? Du reste, qu'il se promène. Mais il ne se promena pas longtemps. Au bout de 4 mois, il n'y tint plus et raccourut en toute hâte à Skvorechniki. Certains hommes sont aussi attachés à leur niche que les chiens d'appartement. Dès lors commença une période d'accalmie qui dura près de 9 années consécutives. Les explosions nerveuses et les sanglots sur mon épaule se reproduisaient à intervalles réguliers sans altérer notre bonheur. Je m'étonne que Stepan Trofimovitch n'ait pas pris du ventre à cette époque. Son nez seulement rougit un peu, ce qui ajouta à la débonnaireté de sa physionomie. Peu à peu se forma autour de lui un cercle d'amis, qui du reste ne fut jamais bien nombreux. Quoique Barbara Petrovna ne s'occupât guère de nous, néanmoins nous la reconnaissions tous pour notre patronne. Après la leçon reçue à Pétersbourg, elle s'était fixée définitivement en province. L'hiver, elle habitait sa maison de ville, l'été son domaine suburbain. Jamais elle ne jouit d'une influence aussi grande que durant ces 7 dernières années, c'est-à-dire jusqu'à l'avènement du gouverneur actuel. Le prédécesseur de celui-ci, notre inoubliable Ivan Osipovitch, était le proche parent de la générale Stavrogine, qui lui avait autrefois rendu de grands services. La gouvernante, sa femme, tremblait à la seule pensée de perdre les bonnes grâces de Barbara Petrovna. À l'instar de l'auguste couple, toute la société provinciale témoignait la plus haute considération à la châtelaine de Skovorechniki. Naturellement, Stepan Trofimovitch bénéficiait, par ricochet, de cette brillante situation. Au club, où il était beau joueur et perdait galamment, il avait su s'attirer l'estime de tous, quoique beaucoup ne le regardassent que comme un savant. Plus tard, lorsque Barbara Petrovna lui eut permis de quitter sa maison, nous fûmes encore plus libres. Nous nous réunissions chez lui deux fois la semaine, cela ne manquait pas d'agrément, surtout quand il offrait du champagne. Le vin était fourni par Andreïev, dont j'ai parlé plus haut. Barbara Petrovna réglait la note tous les 6 mois, et d'ordinaire les jours de paiement étaient des jours de colérine. Le plus ancien membre de notre petit cercle était un employé provincial nommé Lipoutine, grand libéral, qui passait en ville pour athée. Cet homme n'était plus jeune. Il avait épousé en seconde noces une jolie personne passablement dotée. De plus, il avait 3 filles déjà grandelettes. Toute sa famille était maintenue par lui dans la crainte de Dieu et gouvernée despotiquement. D'une avarice extrême, il avait pu, sur ses économies d'employé, s'acheter une petite maison et mettre encore de l'argent de côté. Son caractère inquiet et l'insignifiance de sa situation bureaucratique étaient cause qu'on avait peu de considération pour lui. La haute société ne le recevait pas. En outre, Lipoutine était très cancanier, ce qui plus d'une fois lui avait valu de sévères corrections. Mais dans notre groupe, on appréciait son esprit aiguisé, son amour de la science et sa gaieté maligne. Quoique Barbara Petrovna ne l'aimât point, il trouvait pourtant moyen de capter sa bienveillance. Elle n'aimait pas non plus Chatov, qui ne fit partie de notre cercle que dans la dernière année. Chatov était un ancien étudiant, exclu de l'université à la suite d'une manifestation. Dans son enfance, il avait été l'élève de Stepan Trofimovitch. La naissance l'avait fait serre de Barbara Petrovna. Il était en effet le fils d'un valet de chambre de la générale Stavrogin, et celle-ci l'avait comblé de bonté. Elle ne l'aimait pas à cause de sa fierté et de son ingratitude. Ce qu'elle ne pouvait lui pardonner, c'était de n'être pas venue la trouver aussitôt après son expulsion de l'université. Elle lui écrivit alors et n'obtint pas même une réponse. Plutôt que de s'adresser à Barbara Petrovna, il préféra accepter un préceptorat chez un marchand civilisé et il accompagna à l'étranger la famille de cet homme. À vrai dire, sa position était moins celle d'un précepteur que d'un menin. Mais, à cette époque, Chatov avait un très vif désir de visiter l'Europe. Les enfants avaient aussi une gouvernante. C'était une intrépide demoiselle russe qui était entrée dans la maison à la veille même du voyage. On l'avait engagée sans doute parce qu'elle ne demandait pas cher. Au bout de 2 mois, le marchand la mit à la porte à cause de ses idées indépendantes. Chatov suivit la gouvernante et peu après l'épousa à Genève. Ils vécurent ensemble pendant 3 semaines. Puis ils se quittèrent comme des gens qui n'attachent aucune importance au lien conjugal. D'ailleurs, la pauvreté des 2 époux dut être pour quelque chose dans cette prompte séparation. Demeuré seul, Chatov erra longtemps en Europe, vivant Dieu sait de quoi. On dit qu'il décrotta les bottes sur la voie publique et que, dans un port de mer, il fut employé comme homme de peine. Il y a 1 an, nous le vîmes enfin revenir dans notre ville. Il se mit en ménage avec une vieille tante qu'il enterra 1 mois après. Sa sœur Dasha, élevée comme lui par les soins de Barbara Petrovna, continuait à habiter la maison de la générale qui la traitait presque en fille adoptive. Il avait fort peu de rapport avec elle. Dans notre cercle, il gardait le plus souvent un morne silence, mais de temps à autre, quand on touchait à ses principes, Il éprouvait une irritation maladive qui lui faisait perdre toute retenue de langage. Si l'on veut discuter avec Chatoff, il faut commencer par le lier, disait parfois en plaisantant Stepan Trofimovitch, qui cependant l'aimait. À l'étranger, les anciennes convictions socialistes de Chatoff s'étaient radicalement modifiées sur plusieurs points, et il avait donné aussitôt dans l'excès contraire. Il était de ces Russes qu'une idée forte, quelconque, frappe soudain, annihilant du même coup chez eux toute faculté de résistance. Jamais ils ne parviennent à réagir contre elle. Ils y croient passionnément et passent le reste de leur vie comme haletant sous une pierre qui leur écrase la poitrine. L'extérieur rébarbatif de Chatoff répondait tout à fait à ses convictions. C'était un homme de 27 ou 28 ans, petit, blond, velu, avec des épaules larges, de grosses lèvres, un front ridé, des sourcils blancs et très touffus. Ses yeux avaient une expression farouche, et il les tenait toujours baissés, comme si un sentiment de honte l'eût empêché de les lever. Sur sa tête se dressait un épi de cheveux rebelle à tous les efforts du peigne. « Je ne m'étonne plus que sa femme l'ait lâché, » dit un jour Barbara Petrovna, après l'avoir considéré attentivement. Malgré son excessive pauvreté, il s'habillait le plus proprement possible. Ne voulant point recourir à son ancienne bienfaitrice, il vivait de ce que Dieu lui envoyait et travaillait chez des marchands quand il en trouvait l'occasion. Une fois, il fut sur le point de partir en voyage pour le compte d'une maison de commerce, mais il tomba malade au moment de se mettre en route. On imaginerait difficilement l'excès de misère que cet homme était capable de supporter sans même y penser. Lorsqu'il fut rétabli, Barbara Petrovna lui envoya 100 roubles sous le voile de l'anonyme. Chatoff découvrit néanmoins d'où lui venait cet argent. Après réflexion, il se décida à l'accepter et alla remercier la générale. Elle fit un accueil très cordial aux visiteurs, qui malheureusement s'en montra fort peu digne. Muet, les yeux fixés à terre, un sourire stupide sur les lèvres, il écouta pendant 5 minutes ce que Barbara Petrovna lui disait. Puis, sans même la laisser achever, il se leva brusquement, salua d'un air gauche et tourna les talons. La démarche qu'il venait d'accomplir était, à ses yeux, le comble de l'humiliation. Dans son trouble, il heurta par mégarde un meuble de prix, une petite table à ouvrage en marqueterie, qu'il fit choir et qui se brisa sur le parquet. Cette circonstance s'ajouta encore à la confusion de Chatoff, et il était plus mort que vif lorsqu'il sortit de la maison. Plus tard, Lipoutine lui reprocha amèrement de n'avoir pas repoussé avec mépris ses 100 roubles. Et, chose pire, d'être allé remercier l'insolent aristocrate qui les lui avait envoyés. C'était au bout de la ville que demeurait Chatoff. Il vivait seul, et les visites lui déplaisaient, même quand le visiteur était l'un des nôtres. Il était très assidu aux soirées de Stepan Trofimovitch, qui lui prêtait des journaux et des livres. À ces réunions assistait aussi un certain Virginsky, jeune homme d'une 30aine d'années, marié comme Chatoff. Mais à cela s'arrêtait la ressemblance entre eux. Virginsky était d'un caractère extrêmement doux et possédait une sérieuse instruction qu'il devait en grande partie à lui-même. Pauvre employé, il avait à sa charge la tante et la sœur de sa femme. Ces dames étaient toutes trois fort entichées des principes nouveaux. Du reste, il suffisait qu'une idée quelconque fût admise dans les cercles progressistes de la capitale pour qu'elle l'adoptasse aussitôt sans plus ample examen. Madame Virginsky exerçait dans notre ville la profession de sage-femme. Jeune fille, elle avait longtemps habité Pétersbourg. Quant à son mari, c'était un homme d'une pureté de cœur peu commune, et j'ai rarement rencontré chez quelqu'un une plus honnête chaleur d'âme. Jamais, Jamais je ne renoncerai à ces sereines espérances, me disait-il avec des yeux rayonnants. Lorsque Virginsky vous parlait des sereines espérances, il baissait toujours la voix, comme s'il vous eût confié quelque secret. Son extérieur était fort chétif. Assez grand, mais très fluet, il avait les épaules étroites, les cheveux extrêmement clairsemés et d'une nuance roussâtre. Quand Stepan Trofimovitch raillait certaines de ses idées, il prenait très bien ses plaisanteries et trouvait souvent des réponses dont la solidité embarrassait son contradicteur. Au sujet de Virginsky, courait un bruit malheureusement trop fondé. À ce qu'on racontait, moins d'un an après son mariage, sa femme lui avait brusquement déclaré qu'elle le mettait à la retraite et qu'elle le remplaçait par Lebiatkin. Ce dernier, arrivé depuis peu dans notre ville où il se donnait faussement pour un ancien capitaine d'état-major, était, comme on le vit par la suite, un personnage fort sujet à caution. Il ne savait que friser ses moustaches, boire et débiter toutes les sottises qui lui passaient par la tête. Cet homme eut l'indélicatesse d'aller s'installer chez les Virginsky. Et, non content de se faire donner par eux le vivre et le couvert, il en vint même à regarder du haut de sa grandeur le maître de la maison. On prétendait qu'en apprenant son remplacement, Virginsky avait dit à sa femme « Ma chère, jusqu'à présent je n'avais eu pour toi que de l'amour. Maintenant je t'estime. » Mais il est douteux que cette parole romaine ait été réellement prononcée. Suivant une autre version plus croyable, le malheureux époux aurait, au contraire, pleuré à chaudes larmes. 15 jours après le remplacement, toute la famille alla, avec des connaissances, prendre le thé dans un bois voisin de la ville. On organisa un petit bal champêtre. Virginsky manifestait une gaieté fiévreuse. Il prit part aux danses, mais tout à coup, sans querelle préalable, au moment où son successeur exécutait une fantaisie cavalier seul, il le saisit des deux mains par les cheveux et se mit à lui secouer violemment la tête. En même temps, il pleurait et poussait des cris furieux. Le géant Lebiatkin eut si peur qu'il ne se défendit même pas et se laissa houspiller sans presque souffler mot. Mais lorsque son ennemi eut lâché prise, il montra toute la susceptibilité d'un galant homme qui vient de subir un traitement indigne. Virginsky passa la nuit suivante aux genoux de sa femme, lui demandant un pardon qu'il n'obtint point, parce qu'il ne consentit pas à aller faire des excuses à Lebiatkin. Le capitaine d'état-major disparut peu après et ne revint chez nous que dans les derniers temps, ramenant avec lui sa sœur. J'aurai à parler plus loin des visées qu'il se mit dès lors à poursuivre. On comprend que le pauvre Virginsky ait cherché une distraction dans notre société. Jamais, du reste, il ne causait avec nous de ses affaires domestiques. Une fois seulement, comme lui et moi revenions ensemble de chez Stepan Trofimovitch, il laissa échapper une vague allusion à son infortune conjugale. Mais pour s'écrier aussitôt après, en me saisissant la main, « Ce n'est rien, c'est seulement un cas particulier. Cela ne gêne en rien l'œuvre commune. » Notre petit cercle recevait aussi des visiteurs d'occasion, tels que le capitaine Kartouzov et le juif Liamshin. Ce dernier était employé à la poste. Il possédait un grand talent de pianiste. En outre, il imitait à merveille le bruit du tonnerre, les grognements du cochon, les cris d'une femme en couche et les vagissements d'un nouveau-né. Sa présence était un élément de gaieté dans nos réunions.